Comme vous voyez sur le titre de cet exposé, ça va encore être du positif. Contagion. Hier, nous avons vu que, assez tôt dans le livre d'Osée, est introduit le thème du procès. Et donc nous sommes dans le procès que Dieu fait à son peuple. Et dans ce procès, donc, il va faire un certain nombre d'accusations. Et hier, on a vu que le livre d'Osée est structuré souvent en chiasme. Enfin, il y a des mots qui reviennent et tout ça. Et là, vous allez avoir droit à un festival de structure, un festival de chiasme, un festival de ce qu'on appelle des bicolons. C'est-à-dire des versets ou des parties de versets qui se répondent les uns les autres parce qu'il y a un mot qui se répète. Et c'est juste pour vous montrer que ça a été réfléchi, Osée, et que Osée n'a pas fait ça de manière complètement désordonnée. C'est pas moi qui ai trouvé ces choses-là, hein, c'est des choses que j'ai lues, hein, je vous rassure. Aujourd'hui, donc, c'est juste pour vous montrer, donc, au fur et à mesure qu'on va lire, vous allez voir la structure se dégager. Parfois je vais commenter, parfois je vais pas commenter, et puis les prochains jours on va arrêter ça, on va plutôt se pencher sur le fond que sur la forme. Mais c'est juste pour vous montrer aussi une manière d'étudier l'Ancien Testament, et la manière dont les spécialistes étudient l'Ancien Testament. C'est pas forcément uniquement les idées, mais c'est aussi la manière dont elles sont transmises, la manière dont elles sont structurées. Parfois, nous, quand on lit l'Ancien Testament, on a l'impression que ça se répète et que c'est un peu rébarbatif. On dirait une chanson du GM2. Il y a une vraie idée. Si c'est répété, c'est parce qu'en fait, finalement, c'est construit. Voilà, en plus, je suis enregistré, donc c'est toujours sympa d'envoyer des vannes comme ça. Donc, on va commencer avec Osée au chapitre 4. Et donc voilà, vous avez le texte qui s'affiche. Écoutez la parole du Seigneur, Israélite, car le Seigneur a un litige avec les habitants du pays. Parce qu'il n'y a ni loyauté, ni fidélité, ni connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que malédiction et dissimulation, assassinat, vol et adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera en deuil, tous ceux qui l'habiteront dépériront. Avec eux, les animaux sauvages et les oiseaux du ciel, même les poissons de la mer disparaîtront. Positif. Dans cette première partie, on voit qu'on a affaire à une condamnation de tous les habitants du pays. C'est un réquisitoire contre les habitants du pays, et on voit qu'ils ont, au premier verset, des problèmes moraux. Il n'y a ni loyauté, ni fidélité, ni connaissance de Dieu. Ça évoque une disparition des repères, de repères clairs, qui peuvent fonder de bonnes relations entre les hommes et de bonnes relations avec Dieu. On a un peuple qui est littéralement paumé. Il n'a plus de repères. Et le fait d'être paumé, d'avoir des problèmes moraux, ça entraîne des conséquences pratiques. Et au verset 2, pour ceux qui ont une Bible, qui ne voient plus le verset s'afficher, vous avez peut-être remarqué qu'il y a pas mal de commandements qui sont bafoués. Est-ce que vous pouvez me dire combien il y a de commandements qui sont bafoués au verset 2 ? Quatre, cinq, sept. 10, ouais, j'étais sûr qu'il y avait quelqu'un qui allait... Ouais, merci. Donc, nous avons assassinat, vol, adultère, meurtre. Bah, meurtre et assassinat, c'est pareil. Malédiction, dissimulation, on pourrait voir ça comme un faux témoignage. Ouais, voilà, ça serait un peu plutôt mensonge. Donc, on en a 4 sûrs. Et après, si on veut en voir un peu plus, on peut. Mais en tout cas, il y a au moins 4 commandements qui sont bafoués au verset 2. Pour montrer que le péché... Progresse. Et du coup, ça amène au verset 3 à un châtiment qui est très logique et qui vous rappelle normalement quelque chose, ce châtiment. Le pays sera en deuil, tous ceux qui l'habitent dépériront, avec eux les animaux sauvages, les oiseaux du ciel. Toute la terre va être éradiquée. dans ce texte, et ça rappelle un petit peu le déluge. Ça rappelle cet épisode où Dieu a voulu effacer de la terre tous ces gens si mauvais. Mais c'est encore pire parce que là, même les poissons meurent. Pendant le déluge, normalement, les poissons ne sont pas morts. L'eau, ils savaient ce que c'était, donc il n'y avait pas de problème. Mais là, même les poissons meurent. La suite. Ah, c'est nul. Ah, dommage. Bon, j'avais mis des trucs en rouge, mais ça se voit pas très bien. Est-ce que quelqu'un pourrait éteindre la lumière de l'estrade? Ça doit être en bas à gauche, un truc comme ça. Voilà, ça vous aidera. Non. Estrade. Lit, en fait. Lit ce qui est en dessous. Voilà, super. Ça va mieux? Un peu mieux. Bon, désolé pour les couleurs. Pourtant, que nul n'intente procès, que nul ne réprimande. C'est avec toi, prêtre, que je suis en procès. Tu trébucheras en plein jour. Le prophète aussi trébuchera la nuit avec toi. Et je ferai périr ta mère. Mon peuple périt, faute de connaissance. Puisque toi, tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié l'enseignement de ton Dieu, à mon tour, j'oublierai tes fils. Et donc vous voyez que chaque père, chaque bicolon, a le même mot qui est souligné, hein, qui est répété, pour montrer qu'il y a un ensemble qui est là. C'est une question de structure. Et ce que j'ai mis en rouge, je ne sais pas si vous avez vu, vous êtes arrivé à voir le rapport de tout ce qui est en rouge, c'est ce qui concerne les prêtres. Les prêtres qui sont normalement au service de Dieu, qui doivent effectuer les sacrifices, qui doivent enseigner la loi au peuple, ces prêtres ont de gros problèmes. Ont de gros problèmes parce qu'ils ont rejeté la loi. Ils ne l'enseignent plus. Et puisqu'ils ne disent plus rien d'intéressant, ils ne servent plus à rien finalement, Dieu leur dit, je vais vous rejeter, et j'oublierai vos fils, hein, c'est-à-dire je rejette toute la classe sacerdotale dans son ensemble, vous savez qu'on était prêtres de père en fils, et donc c'est fini pour vous, c'est leur sanction. Mais il y a d'autres choses qu'on peut voir avec ces bicolons. On peut voir aussi qu'il y a le thème de la connaissance qui est vraiment développé. Hein. Mon peuple périt faute de connaissance, puisque toi tu as rejeté la connaissance, puisque tu as oublié l'enseignement de ton Dieu. Voilà. Il y a un vrai problème, les prêtres ont rejeté la connaissance, du coup ils ne peuvent pas transmettre cette connaissance au peuple. Et on voit la conséquence de tout cela avec le verset 5 dans son entier et la première partie du verset 6. Le prêtre trébuchera en plein jour, le prophète, qui marche souvent avec le prêtre, trébuchera la nuit avec toi, je ferai périr ta mère. Alors ta mère, c'est pas la mère du prêtre, hein. C'est soit la nation d'Israël, soit la communauté des prêtres, on ne sait pas trop, et mon peuple périt, faute de connaissance. On voit que cette chute touche toutes les couches de la société. Et c'est très très bizarre comme déclaration, cette condamnation pour ce que les prêtres ne font pas, parce que finalement on se demande s'ils sont en grève, vous voyez c'est leur boulot quand même de pratiquer la loi, d'enseigner la loi, et ils le font pas. Et on se demande, mais bah, alors qu'est-ce qu'ils font à la place, quoi. Alors si vous vous rappelez de ce qu'on a dit hier, il y a des chances qu'ils se tournent plutôt vers l'idolâtrie, qu'ils participent au culte païen. Et puisqu'ils sont aussi attirés par les cultes païens, eh bien, ils n'ont plus le temps d'annoncer la loi de Dieu. Et le fait qu'ils soient en grève, ou en tout cas qu'ils soient déficients, ça a des conséquences absolument dramatiques. Pour eux, mais aussi pour les autres. Et vous allez voir que la thématique, hein, de la transmission couvre tout le passage que nous étudions aujourd'hui. La suite avec une petite structure concentrique, parce que je sais que vous aimez ça. Plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi. Je changerai leur gloire en mépris. Ils mangent le péché de mon peuple. Il l'incite à commettre la même faute qu'eux. Il en sera du prêtre comme du peuple. Je lui ferai rendre compte de ses voies, je lui rendrai selon ses agissements. Ils mangeront, mais ils ne seront pas rassasiés. Ils se prostitueront, mais ils ne s'accroîtront pas, car ils ont abandonné le Seigneur. Oh, pardon. Car... Oh, ah oui, je suis allé un peu vite, hein. Je suis allé un peu vite. Oh, trop, beaucoup trop vite. Oh. Ouais, alors on recommence, voilà. Voilà. Veuillez m'excuser pour ce problème technique. Je lui ferai rendre compte de ses voies. Je lui rendrai selon ses agissements. Ils mangeront, mais ils ne seront pas rassasiés. Et il en manque un. Ah, ils se prostitueront, mais ils ne s'accroîtront pas. Et donc, vous voyez dans cette structure concentrique qu'au départ, plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché. Donc il y a vraiment l'idée que la croissance du peuple fait que la croissance du péché est parallèle. Mais à la fin, même s'ils se prostituent, ils ne s'accroîtront pas. La croissance s'arrête. Ils mangent le péché de mon peuple. Et là, on parle vraiment des prêtres, hein. Ils mangent le péché de mon peuple. C'est une manière de dire, dans d'autres versions, c'est plus explicite. Mais ils incitent le peuple à faire comme eux. Ils sont des mauvais exemples pour le peuple. Ils incitent le peuple à pécher comme eux. Ils mangent le péché de mon peuple. Et en 10a, ils mangeront, mais ils ne seront pas rassasiés. Et en plein centre, ils incitent le peuple à commettre la même faute qu'eux, mais on voit que même si ce sont les prêtres qui sont vraiment responsables de l'état spirituel déplorable du peuple, il y a une solidarité dans la sanction. Le peuple, comme les prêtres, va devoir rendre des comptes à Dieu, et il est mal barré. Et donc on voit que alors que le péché croît, eh bien là, Dieu met fin au péché finalement, en tout cas limite le péché. Et donc voilà, c'est la condamnation des prêtres pour ce qu'ils font, après la partie précédente où c'était la condamnation pour ce qu'ils ne faisaient pas. Et donc on voit qu'ils se sont de mauvais exemples, parce que non seulement ils n'enseignent pas, mais en plus ils font n'importe quoi, et ils incitent le peuple à pécher comme eux, c'est-à-dire sûrement à se tourner vers les idoles. Et on voit qu'il y a la même sanction pour tous, que ce soit les exemples comme les imitateurs. Personne ne peut se dédouaner. L'idolâtrie est un crime, et même si, si c'est un proche parent ou un prêtre qui vous incite à être idolâtre, vous êtes responsable de cela et vous êtes condamnable. La suite au verset 11. Le vin et le mou font perdre le sens. Mon peuple consulte son morceau de bois, mais c'est son bâton qui le renseigne. Car un esprit de prostitution les égare, ils se prostituent, s'éloignant de leur Dieu. Là, vous voyez une mini structure concentrique. Où les deux extrémités, donc le verset 11 et la dernière partie du verset 12, nous parlent d'un certain égarement. Le vin nouveau leur font perdre la tête, et à la fin, c'est un souffle de prostitution qui les égare. Hein, ils ont un problème d'étourdissement, on va dire. Et que produit cet étourdissement spirituel ? C'est au milieu. Mon peuple interroge un morceau de bois. Ils sont complètement débiles. Et c'est son bâton qui lui parle. Wouh, bâton, parle-moi. Et c'est vraiment la manière de montrer que les idoles sont ridicules. Les idoles sont taillées à partir d'un morceau de bois. Et on parle à du bois. Qui a certes des oreilles, mais des oreilles qu'on lui a fabriquées. Et il n'entend pas avec ses oreilles. Et en fait, on attend que le bâton réponde, mais en fait, il ne peut pas répondre parce qu'il a une bouche, mais c'est une bouche qu'on lui a fabriquée aussi. C'est un bâton, quoi. Alors c'est une manière assez méprisante hein, de décrire les idoles, qui ne sont pas des bâtons, c'est plutôt souvent c'est un peu plus gros que les bâtons. Mais voilà, c'est la manière dont les prophètes aussi essaient d'éveiller l'esprit critique de leur peuple en disant « Hé, les amis, réveillez-vous, vous causez un bâton. » Et pourquoi est-ce qu'ils sont aussi stupides? Eh bien, c'est à cause du vin et c'est à cause du souffle de prostitution qui les égare. Ils sont sous substance. La suite au verset 13. Ils sacrifient sur le sommet des montagnes, ils offrent de l'encens sur les collines, sous un chêne un peu plié, un térébinthe dont l'ombre est plaisante. C'est pourquoi vos filles se prostitueront et vos belles-filles seront adultères. Je ne ferai pas rendre des comptes à vos filles pour leur prostitution, ni à vos belles-filles pour leurs adultères, puisque eux-mêmes vont à l'écart avec des prostituées et sacrifient avec des prostituées sacrées. Et là, vous voyez, en fait, cette petite structure est juste surtout là pour montrer que font ces prêtres. Ils sacrifient sur le sommet des montagnes. Ils font ça décrit finalement le verset 13, un culte idolâtre, et que je vais vous décrire tout à l'heure. Et ils vont à l'écart avec des prostituées et ils sacrifient avec des prostituées sacrées. Donc ils sont complètement reconvertis, quoi. Au lieu d'être prêtres de l'Éternel, ils sont prêtres de Baal. Voilà. C'est une reconversion professionnelle. Et on voit que leurs filles se prostituent aussi, et leurs belles-filles aussi, mais le Seigneur leur dit au verset 14, je ne leur ferai pas rendre des comptes pour leur prostitution, parce que c'est à cause de vous, prêtres, qu'elles le font. Elles vous imitent. Elles vous imitent. Donc vous voyez, vous avez les prêtres là, et vous avez les belles-filles et les filles de l'autre côté qui se prostituent. Mais n'empêche que la responsabilité revient aux prêtres. Un peuple sans intelligence, verset 14c, court à sa perte. Si tu te prostitues, Israël, que Judas ne se mette pas en tort. N'allez pas à Gilgal, ne montez pas à Beth-Aven, tout en jurant par la vie du Seigneur. Parce qu'Israël est rétif, comme une vache rétive. Maintenant, le Seigneur le fera paître comme un mouton dans de vastes prés. Éphraïm est associé aux idoles, laisse-le. À peine ont-ils cessé de boire qu'ils se prostituent. Leur chef aime le mépris. Le vent les enveloppera de ses ailes et ils auront honte de leur sacrifice. Verset très important qui rappelle encore la question de la connaissance de l'Éternel. Le peuple qui est sans intelligence court à sa perte. Il est sans intelligence parce que vous vous rappelez ce qui s'est passé avant, il est égaré par un vent de prostitution. Il est égaré par des prêtres qui ne dispense plus la loi. Il est égaré par un environnement idolâtre. Et Dieu, qui vient de décrire l'état spirituel d'Israël, le royaume du Nord, dit au royaume du Sud, Juda, ne fais pas comme ça, ne limite pas, ne va pas dans des sanctuaires spéciaux, que je décrirai les prochains jours. N'allez pas dans ces sanctuaires idolâtres, ne participez pas à ces fêtes bizarres, parce que là encore, dans ces fêtes bizarres, ils boivent, ils se prostituent, ils aiment le mépris. Là encore, il y a un vent qui n'est plus un vent de prostitution, mais un vent plutôt de jugement qui les enveloppera de ses ailes. Et un jour, ils auront honte de leur sacrifice. Et il y a une grande structure concentrique avec tout ce passage qui est très intéressante. On commence avec un souffle qui égare le peuple au verset 11 et 12. Ensuite, on a le thème de l'imitation qu'on vient de voir, les pères et les filles. Ensuite, on a le proverbe « un peuple sans intelligence court à sa perte ». Ensuite, on a à nouveau le thème de l'imitation, par contre, Juda et Israël. Et enfin, on a un vent qui emportera le peuple. Il y a du sens. On part d'un vent qui égare avec un vent qui juge. On a l'imitation père-fille, imitation Israël-Juda, et en plein centre, on a ce verset qui est un peu perdu au milieu de tout ça si on ne comprend pas que c'est une structure concentrique, mais qui est tellement important. Un peuple sans intelligence court à sa perte. Dans d'autres versions, vous avez normalement peut-être autre chose. Mon peuple périt faute de connaissance, je crois. Vous allez voir ça. Mon peuple périt faute de connaissance. Donc voilà, hein, c'est la condamnation du peuple cette fois-ci, avec ces versets un peu en général, avec un égarement généralisé, une contagion, puisque c'est vraiment le thème de l'imitation qui est là, de la contamination, et voilà, le culte païen, mode d'emploi. Peut-être que vous n'avez pas compris pourquoi ils vont sur des hautes collines et qu'ils vont sous des arbres gentils avec des ombrages tellement agréables. C'est pas du tout l'histoire d'un pique-nique. C'est que les cultes païens se faisaient souvent sur des hauts lieux, des collines. Et on sacrifiait autour d'un bel et gros arbre. Parce qu'en fait, ces arbres étaient un peu synonymes de la force de la nature, de la sève qui donne la vie. C'était un peu le culte de Baal était un culte naturel, un culte naturaliste, où finalement, on pensait que Baal, à certaines périodes de l'année, il était là, et puis à d'autres périodes de l'année, il mourait, et puis après, il ressuscitait tous les ans, au temps du printemps. Et donc, on sacrifiait autour de ces arbres pour donner un culte à Baal et pour l'inciter à bénir les récoltes. Voilà. C'est un truc qui nous échappe un peu maintenant. Et d'ailleurs, on ne sait pas forcément ce qu'ils faisaient tout le temps. Et des fois, ils se réunissaient autour d'un grand poteau pour la déesse Asherah. On ne sait pas trop ce qu'ils faisaient autour, hein, mais il y avait toujours de la prostitution, des choses comme ça. Mais c'était toujours une sorte de culte naturel. Voilà comment faisaient les païens. Dernière partie de notre lecture. Toujours à propos des prêtres au chapitre 5. Écoutez, prêtres, prête attention, maison d'Israël, prête l'oreille, maison du roi, c'est à vous que le jugement s'adresse. Parce que vous avez été un piège à Mitzpah et un filet tendu sur le Tabor, des dévoyés ont mis le comble au carnage. Moi, je suis une leçon pour eux tous. Moi, je connais Éphraïm et Israël ne m'est pas caché. Oui, maintenant, Éphraïm, tu t'es prostitué, et Israël s'est rendu impur. Leurs agissements ne leur permettent pas de revenir à leur Dieu, parce qu'un souffle de prostitution est en eux, et parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur. L'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Israël et Éphraïm trébucheront sur leur faute, et avec eux, Juda aussi trébuchera. Ils iront avec leur petit bétail et leur gros bétail rechercher le Seigneur, mais ils ne le trouveront pas. Il s'est éloigné d'eux. Ils ont trahi le Seigneur, car ils ont engendré des enfants illégitimes. Maintenant, la nouvelle lune les dévorera avec leurs biens. On finit avec une parole de jugement. Et je pense que je ne vous l'ai pas dit avant, mais on va beaucoup parler d'Éphraïm. Éphraïm, c'est une des tribus d'Israël, une des principales tribus du royaume du Nord. Et donc, le prophète, et Osée, mais aussi d'autres prophètes, si vous lisez d'autres prophètes, confondent souvent Éphraïm, Israël, Jacob. Tout ça, ça veut dire le royaume du Nord, la plupart du temps. Des fois, ça veut aussi dire le royaume du Sud avec. Mais la plupart du temps, ça veut dire le royaume du Nord. Dans ce passage, on voit une je vous avais pas tout mis, mais on voit une contamination généralisée dans tout ce passage. Au verset 1 à 3, il n'y a plus un seul innocent. Voilà, le péché, l'idolâtrie, c'est étendu à tout le pays. Au verset 4, on voit que le retour est impossible. Le vent de prostitution a soufflé tellement fort, l'esprit de prostitution est tellement entré en eux tous, ils sont tellement tous idolâtres, que c'est plus possible de revenir. Et là, vous vous mettez à la place d'Osée, qui, comme beaucoup de prophètes, en fait, parle dans le vide. L'Éternel lui annonce finalement que personne ne l'écoutera. Et dans les versets 5 à 7, on voit que la ruine est inévitable. Ces thèmes-là qu'on voit depuis tout à l'heure, ça va revenir dans tout le livre. Ça va tourner dans tout le livre. Et on va les revoir prochainement. Alors vous voyez, les sujets importants de ce passage, de tout ce passage qu'on a pu lire, dans les sujets, il y a le premier, c'est l'envoûtement. L'envoûtement, l'intelligence obscurcie. Ils ont la tête qui tourne à cause du vin, à cause du culte païen, à cause du vin qui est versé pendant le culte païen, en l'occurrence. Ils ont la tête qui tourne à cause du sexe qui est généralisé. Il y a une sorte de fièvre païenne qui s'est emparée du peuple. Leur intelligence ne fonctionne plus. C'est la dépravité absolue du peuple. Le péché est ancré profondément en eux et ils ne peuvent plus revenir à l'Éternel. Cette dépravité les pousse à pécher, à suivre leurs bas instincts, culte naturel, sexe. La chose que tous les peuples du monde font, naturellement, c'est une addiction. Ce péché, cette dépravité, c'est une addiction qui est dans nos gènes, dans le gène de tout humain. C'est pas comme s'il y avait quelque chose d'extérieur qui tentait alors qu'en fait les hommes étaient purs. C'est quelque chose qui est dans nos gènes depuis Adam. Depuis Adam, on verra ça pour le niveau 1 dans la chute tout à l'heure, quand on va aborder la doctrine de la chute. Mais c'est dans nos gènes. Et dès qu'en fait il y a un élément extérieur qui réactive ce qui est dans nos gènes, et ben c'est un peu comme quand on est alcoolique. Une goutte d'alcool, et c'est reparti. Même plusieurs années d'abstinence peuvent être mises complètement par terre par une seule goutte d'alcool, et c'est un peu le cas ici. Un culte païen qui n'est plus contrebalancé, qui devient généralisé, et tout le monde y va dans la joie, parce que un culte païen, et ben ça correspond au péché qui est déjà à l'intérieur de nous. Et ça correspond bien à ce que Paul dit dans Romains 3, qui correspond à une description de la nature humaine, qui est un mix de plusieurs psaumes. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Il n'y en a pas un qui soit intelligent, il n'y en a pas un qui recherche Dieu. Tous se sont égarés, ensemble ils se sont pervertis. Il n'y en a pas un qui fasse le bien, il n'y en a même pas un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils rusent avec leur langue, ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic, leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume, ils ont les pieds agiles pour répandre le mal, la destruction et le malheur sont sur leur chemin, ils n'ont jamais connu le chemin de la paix, il n'y a pas de crainte de Dieu devant leurs yeux. Voilà notre état naturel, l'état naturel de tous les hommes. S'il n'est pas contrebalancé par Dieu. Au départ avec la loi, et après avec une deuxième version bien meilleure, l'esprit. Le deuxième sujet important de ce passage, c'est la connaissance de Dieu transmise, la transmission. Au départ, Dieu condamne les prêtres parce qu'ils ne font pas leur boulot. Et je pense que c'est le début de la fin, parce que comme je vous l'ai dit, puisqu'on a un virus qui est à l'intérieur de nous, qui nous pousse finalement à pécher, si il n'y a pas une connaissance de la loi de Dieu qui est transmise, eh bien, on va assez directement vers le paganisme, vers l'idolâtrie. Et donc les prêtres sont pleinement coupables de ne pas faire leur travail. Et ça correspond pas mal à un verset que tous les stagiaires relais connaissent absolument par cœur et qui correspond bien au début de l'Église, où finalement il n'y avait pas encore de Nouveau Testament, où il n'y avait que les apôtres. Et les apôtres, quand ils fondaient des églises, donc un apôtre comme Paul, quand ils fondaient des églises, ils mettaient des anciens en place, et les anciens, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Alors qu'il n'y avait pas de Nouveau Testament. eh bien, il devait transmettre fidèlement la doctrine du Christ. Il devait montrer, à l'aide de l'Ancien Testament, comment Jésus est l'accomplissement de toutes les Écritures. Et voilà ce que dit Paul à Timothée, qui est en place à l'église d'Éphèse. « Toi donc, mon enfant, puisse tes forces dans la grâce qui nous est accordée dans l'union avec Jésus-Christ et l'enseignement que tu as reçu de moi et que de nombreux témoins ont confirmé, transmets-le à des personnes dignes de confiance qui seront capables, à leur tour, d'en instruire d'autres. » Jésus, Paul, Timothée, des anciens qui vont encore instruire d'autres personnes après eux. Si la chaîne est rompue à un moment, tout part en vrille. Parce qu'en fait, on n'est plus au courant de la parole de Dieu. Et si on n'est pas au courant de qui est Dieu, de ce qu'il nous demande de faire, on fait n'importe quoi. C'est vraiment important cette transmission de la parole. Et enfin, le châtiment logique pour tous, c'est le troisième sujet important. On ne peut pas dire « c'est pas ma faute » quand on pêche et quand on ne se tourne pas vers le Seigneur Jésus. En fait, tout le monde aura à rendre des comptes de ce qu'il aura fait ou de ce qu'il n'aura pas fait. Même si, quand même, on nous dit que les enseignants seront jugés plus sévèrement que les autres dans le Nouveau Testament. Et ça correspond bien à ce que dit Osée. Hein. Osée, déjà, condamne les prêtres. Et un enseignant chrétien qui dira n'importe quoi ou qui ne dira pas des choses essentielles sera jugé plus sévèrement que le reste des chrétiens. On est jugé à la mesure. Il y a Pénélope qui est à deux doigts de défaillir de bonheur. On est jugé à la mesure de nos capacités, à la mesure de du poids de nos responsabilités. Et toute personne qui enseigne la Bible, comme je suis en train de le faire maintenant, doit vraiment réfléchir avant de le faire, et surtout doit le faire dans le véritable respect de la parole de Dieu et de la connaissance de Jésus, parce que finalement, les personnes qui écoutent, même si bien sûr au GBU, vous avez un sens critique, que beaucoup de chrétiens n'ont pas, et une connaissance de la Bible vraiment bien supérieure au reste de l'humanité. Et donc, vous ne buvez pas mes paroles telles des moutons naïfs, mais même quand même, je serai jugé plus sévèrement, parce que si je vous dis n'importe quoi, j'ai une responsabilité. Mais vous, puisque vous n'êtes pas, puisque vous avez un cerveau, puisque vous avez la connaissance de la parole, si vous me croyez alors que je vous dis n'importe quoi, vous avez aussi une responsabilité. Et il y a un châtiment pour les personnes qui se détournent de l'enseignement véritable. Et la première application qui suit ce que je suis en train de dire, c'est qu'il nous faut aimer la parole de Dieu. Parce que nous voulons connaître Dieu. On ne veut pas aimer la parole de Dieu parce qu'on veut idolâtrer la Bible. Comme si dans la Trinité, il y avait le Père, le Fils et la Bible. On veut aimer la parole de Dieu parce que c'est par cette parole qu'on pourra connaître notre Seigneur Jésus. L'aimer tel qu'il est et pas tel que nous le fantasmons. Et le problème de l'idolâtrie, hein, vraiment, c'est qu'on fait Dieu à son image. L'homme fait Dieu à son image. Il le fantasme. Et nous, grâce à la parole de Dieu, eh bien, on inverse les choses. Nous sommes à l'image de Dieu et nous voulons le connaître tel qu'il est vraiment. Et c'est vraiment sympa au GBU, c'est qu'au moins, on met la parole de Dieu au centre. Et donc on réfléchit à qui est Dieu, et on n'est pas obligé d'être d'accord sur tous les points, mais au moins, vous n'avez pas un gourou ou des gourous qui vont vous dire « Moi j'ai connu Jésus, je l'ai très bien connu, j'étais à l'école avec, tout ça, et écoutez-moi, et je vais vous dire qui il est, je vais vous dire ce qu'il faut faire. » Réfléchissez pas à tout ça, mais chaque dimanche ou à chaque DAB, vous allez savoir quoi faire. Je vais vous faire un truc en plusieurs points comme ça et vous allez avoir un truc super pratique. Réfléchissez pas surtout. Appliquez, obéissez. Et donnez de l'argent. Une sorte de gourouisation. Et ça peut arriver hein, dans le milieu évangélique. Mais notre force, nous, c'est que nous aimons la parole de Dieu et que, franchement, n'importe qui, même le secrétaire général de GBU ou le responsable du ministère universitaire, s'il dit n'importe quoi, eh bien, vous avez le droit de vous lever, de dire, moi, ce que je dis dans ce passage-là, c'est absolument pas ça. Tu te tais. Vous avez totalement le droit parce que ce qui fait loi ici, c'est pas des gens, c'est la parole de Dieu. Je crois que Pénélope est très d'accord avec ce que je dis. Et du coup, la question sous-jacente, en tout cas le deuxième point d'application que j'aimerais aborder avec vous, c'est la question des leaders. Dans le milieu évangélique, parce que c'est le nôtre, hein, c'est pour ça que j'en parle, on a tendance à s'attacher à certains leaders qui parlent très bien ou qui parlent de manière avec autorité, quoi. Et la question, c'est à quel type de leader on s'attache? Qui est un modèle pour nous? Parce qu'en fait, on a tous des modèles, il hein, faut pas se cacher. Donc, je vous dis pas qu'il faut pas avoir de modèle. Mais la question, c'est quel type de modèle vous prenez? Est-ce que vous prenez des gens qui causent bien, qui causent fort, des gens qui sont particulièrement drôles ou je sais pas, ou, voilà, ou particulièrement agressifs ou qui vous donnent envie de les suivre, qui sont une sorte de père ou de grand frère de substitution pour vous, ou de grande sœur et tout ça hein, pour les filles, tout ça, ou uniquement quelqu'un qui est attaché à la parole de Dieu. Petit proverbe, on ne sait pas d'où il vient, on dit qu'il est portugais ou chinois, mais en tout cas, quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. C'est un proverbe toujours intéressant. En fait, en gros, au lieu de regarder ce que pointe le sage, on regarde des fois son doigt. Alors déjà, c'est un tort. Mais en plus, avec certains leaders, parfois, en fait, eh ben, ils pointent même pas la lune. Et en fait, on les regarde surtout eux. Et c'est un peu comme s'ils étaient vraiment des intermédiaires entre Jésus et nous. Et ça, c'est extrêmement grave. Vraiment, écoutez, prenez exemple sur des gens qui veulent rester attachés à la parole de Dieu telle qu'elle est, pas telle que ils l'interprètent. Et enfin, la question que nous pose ce passage, c'est la question aussi de la progression ou de la régression. On voit que pour le peuple d'Israël, on a vraiment une régression spirituelle, on va vers une sorte de connaissance du Seigneur vers l'idolâtrie. Et la question pour nous, c'est bah, est-ce que au fur et à mesure de notre vie chrétienne, est-ce qu'on est de plus en plus attaché à la parole de Dieu? Est-ce qu'on a plus de connaissances à propos de ce que Jésus a fait? Est-ce qu'on a envie de le servir de plus en plus? Est-ce que le Saint-Esprit fait son œuvre en nous et nous ferait progresser? Ou est-ce que c'est le contraire? Par exemple, pour les Corinthiens, voici ce que Paul leur dit au chapitre 11, verset 17. Il me faut mentionner un point pour lequel je ne saurais vous féliciter, c'est que vos réunions, au lieu de contribuer à votre progrès, vous font devenir pires. Est-ce que les cultes que nous vivons dans nos églises, est-ce que nos DAB dans les GBU nous font devenir meilleurs ou nous font devenir pires? En fait, c'est génial parce que ça nous permet de nous évaluer sur un critère très clair. Et c'est un peu comme ce qu'on fait en entreprise avec des objectifs en début d'année et un bilan en fin d'année. Et on pourrait à chaque fois se faire un bilan personnel en tant que chrétien. Est-ce que je suis meilleur ou est-ce que je suis pire que l'année dernière? Bien sûr, il faut des critères précis hein, pour faire ça. Mais c'est une question qu'on peut vraiment se poser. Et pour terminer, une citation d'éthique, un prof de théologie en éthique qui est à la fac évangélique de Vaux-sur-Seine, à côté de Paris, ce qu'il a dit il y a à peu près 2 semaines, la culture évangélique est devenue petit à petit celle du divertissement. Et beaucoup de personnes sont d'accord avec ça. Au lieu d'être une culture de réflexion autour de la parole de Dieu, d'un sens qu'on donne à ce qu'on fait, la culture évangélique se tourne de plus en plus vers le divertissement. Vers, allez, on veut s'amuser et puis c'est tout. Et ça, c'est une vraie question qu'on peut se poser toujours dans nos cultes ou nos DAB. Est-ce que ça fait marcher notre cerveau? Est-ce que ça rend meilleur notre âme? Ou est-ce que finalement, ça c'est un truc comme ça, plein de paillettes, un truc bien sucré comme ça, très sympa, comme quand on avait 14 ans, et qui sert finalement à rien? Et on peut être maintenu très, très, très longtemps dans une sorte d'enfance spirituelle où on n'a pas à réfléchir. Et donc, l'exhortation que ce passage nous laisse maintenant, c'est attachons-nous fermement à la parole de Dieu, transmettons-la et vivons de cette parole de Dieu pour que justement le Saint-Esprit arrose tout ça et nous fasse progresser. Amen.